Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi d'écouter Nutri Radio. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette dernière émission avec le docteur Jean-Paul Curtet. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Ambline et bonjour à tous.
Alors,
Dernière émission avant bel été, j'espère, pour vous.
Eh bien oui, dernière émission, on va s'intéresser aux seniors et à la pollution.
Oui, évidemment, toutes les catégories sont touchées, mais les seniors sont exposés donc au même risque de pollution. Toutes les populations qu'on a vues, depuis les femmes enceintes, les enfants, les hommes, donc de l'air, ça vient de l'eau, ça vient des aliments, des vêtements, des transports, des objets. Mais ils sont quand même moins liés au risque lié au travail, hein, qu'on a vu il y a deux émissions avec les hommes, étant pour beaucoup retraités. Par contre, les seniors sont surtout victimes d'un abus de médicaments. 40% des médicaments vendus en France sont utilisés par les plus de 60 ans, qui ne représentent que 20% de la population.
C'est énorme.
Et ça a été quantifié de manière très précise par le professeur Olivier Saint-Jean, qui est gériatre, c'est médecin spécialisé chez les personnes âgées, à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, qui a eu, grâce à l'ouverture des big data, accès aux dossiers de la sécurité sociale, anonymisé bien sûr, de 800 000 seniors, dont il découvre avec effarement qu'ils consomment en moyenne 10 médicaments par jour. Or, tout pharmacologue apprend qu'au-delà des 3 médicaments, les interactions sont juste ingérables. Par ailleurs, il est bien établi que plus le nombre de médicaments prescrits est important, plus le nombre d'effets secondaires indésirables augmente. Et que font les médecins la plupart du temps? Ça a un effet désirable, un autre médicament contre les effets indésirables.
Il faut choisir. On ne peut pas tout prendre en même temps.
C'est le problème, c'est que, visiblement, ils n'ont pas eu la formation qu'il fallait pour gérer ces histoires de nombre de médicaments des seniors. Le coût du seul recours aux services d'urgence pour accidents médicamenteux se monte en France, selon cette équipe, à environ 2 milliards d'euros par an en France. Et 20% des hospitalisations sont dues à des prescriptions de médicaments. Il faut se rappeler aussi que chaque année, autour de 20 000 personnes en France, 100 000 aux États-Unis, meurent d'accidents iatrogènes dus aux médicaments, avec quatuor de tête des anticoagulants, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des hypoglycémiens et des psychotropes. Or, les études françaises et internationales, des études épidémiologiques, rétrospectives, réalisées aux USA, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Nouvelle-Zélande, conduisent à retenir que la part des effets indésirables des médicaments évitables se situe entre 30 et plus de 50%. Il faut déjà noter que 8 patients sur 10 ressortent d'une consultation avec des médicaments en France. Alors que c'est quand même bizarre, dans les pays scandinaves, c'est la moitié, 4 sur 10. La France est dans le peloton de tête européen. En matière de consommation de médicaments, pour certaines classes comme les psychotropes, qui sont déjà consommés par plus de 16 millions de Français, en moyenne, les Français prennent 34 gélules anxiolytiques par personne et par an. Je pense qu'il y a, comme on l'a vu, un problème particulier à la France, bon, c'est évidemment mondial, mais elle se situe aussi dans le peloton de tête des quantités de pesticides utilisées. Certains de ces pesticides étant neurotoxiques, certains facteurs de maladie de Parkinson, on peut se demander s'il n'y a pas non plus un lien entre les deux.
Ce seraient des médicaments dangereux quand même ou pas?
Mais il y a carrément des livres qui faits par le doyen, par exemple, de la faculté de Necker, qui a titulé son livre sur les médicaments inutiles et dangereux. La revue Prescrire, qui est la revue de référence dans ce domaine qui est incontestée, il a fait chaque année un bilan. Alors, que dit le bilan 2026? 108 médicaments autorisés s'avèrent plus dangereux qu'utiles.
Ah oui.
Alors, l'Association pédagogique nationale pour l'enseignement de la thérapeutique, APNET, dit « Il est urgent de rapprocher l'étudiant du malade et de le sensibiliser à son contact à l'apprentissage de la décision thérapeutique concrète et personnalisée. Il est urgent de même que son cursus soit sanctionné par d'authentiques examens de compétences conduisant à lui délivrer un permis de prescrire. » Ça me paraît aussi important que le permis de conduire, parce que si on conduit mal, on peut tuer des gens, mais si on prescrit mal, là aussi. Donc une convention médicale signée entre l'assurance maladie et les médecins libéraux en 2024 acte la mise en place d'une consultation de déprescription. Elle s'adresse aux patients âgés auxquels sont prescrites au moins 10 lignes de traitement. Il y a des consultations hospitalières, de ville, de déprescription, qui se mettent en place. Cette consultation est maintenant remboursable par la Sécurité sociale. Et ce mouvement est mondial. À Nantes, par exemple, en 2024, accueille une conférence internationale sur la déprescription. Et la dernière a eu lieu un des 26 au 29 avril de cette année, 2026, à Montréal.
Et qu'est-ce qui se passe alors dans ces déprescriptions? Qu'est-ce qu'on fait?
Tout simplement, on vérifie la viabilité, la non-toxicité des médicaments prescrits. Est-ce qu'ils sont vraiment indispensables ou pas? Et s'ils ne le sont pas, on les enlève progressivement la plupart du temps. Alors, on pourrait faire mieux avec la nutrithérapie, c'est-à-dire de donner des prescriptions globales, d'ailleurs recommandées par les agences de santé aujourd'hui officiellement, mais bon, malheureusement, c'est des déclarations, il ne se passe pas grand-chose sur le terrain, où l'activité physique, une meilleure alimentation, des corrections de carence, s'il faut des psychothérapies, peuvent remplacer des médicaments.
D'accord.
Bon, déprescrire, c'est bien, mais évidemment, il vaudrait mieux, au départ, prescrire de façon plus discernée, en obéissant au serment que tous les médecins, sur lequel tous les médecins jurent, c'est le serment d'Hippocrate, fondeur de la médecine moderne, en Grèce. D'abord, ne pas nuire, c'est-à-dire en pratique peser le rapport bénéfice-risque avec la plus grande attention. Ceci n'implique pas seulement une meilleure formation, un examen qui, comme le permis de conduire, vérifierait donc que l'aptitude des médecins à prescrire est correcte, mais un recadrage aussi des pratiques de l'industrie pharmaceutique. Les gouvernements précédents ont commencé à le faire, en interdisant par exemple les cadeaux, les voyages offerts, on pouvait faire des voyages gratos, mais aux médecins. Mais il reste que nombre d'études négatives qui gênent l'industrie restent dans les tiroirs. Il a fallu des perquisitions de la police aux États-Unis pour en révéler, ce qui inverse parfois le résultat des synthèses en défaveur de médicaments, par exemple les statines, toujours religieusement prescrits par les cardiologues, les généralistes, alors que les méta-analyses montrent une inefficacité et en prévention primaire et en prévention secondaire. Une dépression d'un facteur vital, le coenzyme Q10, qui permet de concentrer les électrons dans le moteur qui nous fait faire tout, l'ATP, des fatigues, donc évidemment, c'est logique, mais des myopathies, même des rhabdomyolyses, ce qui est beaucoup plus grave, rare mais grave, plus de diabète. Alors c'est quand même paradoxal qu'un médicament pour protéger des risques cardiovasculaires augmente les diabètes, qui sont un énorme facteur de risque cardiovasculaire, et au total, un raccourcissement de l'espérance de vie. Par ailleurs, de nombreuses pratiques de corruption sont régulièrement mises à jour, comme des versements de sommes importantes, sous prétexte de soutenir la recherche dans labo, pour obtenir en fait la promotion de leurs produits par des sommités. Ça a été encore le cas, selon des journalistes d'investigation, avec les analogues du GLP-1, là, qui font un massacre mondial. Pour ces derniers blockbusters, le Big Pharma, le recours aux influenceurs a été aussi titanesque. Et ça, c'est nouveau et ça fait très mal.
On va faire une courte pause, Jean-Paul Curté.
Absolument.
Et on continue bien sûr de parler des seniors et donc de la pollution. À tout de suite.
Découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Et on est de retour sur Nutri Radio avec le docteur Jean-Paul Curtet pour cette dernière émission de la saison. Et Jean-Paul, aujourd'hui, vous avez choisi de parler des seniors et de la pollution.
Voilà. Alors, comme on le disait, les seniors sont exposés à toutes les pollutions auxquelles sont exposés tout le monde, moins pour le travail, mais eux, ils ont vraiment une surexposition à ce qu'on appelle la polymédication, et ces médicaments peuvent évidemment sauver des vies, faire du bien, être indispensables, mais parfois il y a un abus, et même c'est plus que parfois, puisque on a vu tout à l'heure le professeur Olivier Saint-Jean qui a pu traiter tous les dossiers de la sécurité sociale, montre qu'il y a un excès totalement inacceptable de médicaments. C'est reconnu maintenant par la sécurité sociale et les autorités de santé publique, mais il y a du boulot. Alors, pour parler d'une nouveauté, c'est les fameuses analogues de GLP-1 qui font un massacre. Voilà. Parce qu'évidemment, ils font perdre du poids rapidement, mais après un an d'arrêt, qu'observe-t-on? Un regain de 50 à 80% après 2 ans au lieu de 100%. Rebelote? Et non, car il s'avère qu'en moyenne, 40% du poids qui a été perdu, ce n'est pas de la graisse, c'est du muscle. Et le muscle, c'est quoi? C'est la masse qui dépense, dont le manque est une des principales causes du problème. C'est le fait de manquer de muscles et de centrales énergétiques qui sont dedans, les mitochondries, pour brûler les calories, qui est le problème principal. Au total, il y a l'aggravation du problème et de la résistance accrue aux autres interventions pour réaméliorer la composition corporelle. C'est un phénomène qui avait été déjà très bien identifié avec ce qu'on appelait le yo-yo. On fait un régime restrictif, on perd du poids, mais dans ce poids, on perd du muscle. Et quand on regagne le poids, on a moins de muscles et plus de graisse, et on devient résistant à tout. Ça amène à un truc qu'on ne croyait pas possible, des obèses petits mangeurs. Et ceci, pas seulement à un coût financier hyper élevé. Mais, vous avez vu, d'ailleurs, c'est scandaleux, mais enfin bon, la Sécu en France a essayé de résister, mais là, ils viennent, la semaine dernière, de décider de rembourser ces médicaments. Bon, ils étaient pourtant les plus modérés sur le sujet, les plus réservés. Il y a dû avoir encore des pressions de lobby. Ça va nous coûter une montagne de sous, alors que la Sécu est déjà en déficit. Mais bon, c'est tout le monde qui va payer ça.
Là, c'est notamment
un résultat calamiteux. Il y a une liste impressionnante de problèmes. Bouche sèche, inflammation des gencives, vomissement, toux chronique, perte de cheveux, certains graves, progression de neuropathie optique chez les diabétiques, neuropathie ischémique optique antérieure non artéritique, ça s'appelle NAION, la DMLA, première cause de cécité, lithiase biliaire, pancréatite, bon, c'est un peu débattu encore parce qu'il y a des études qui montrent un risque augmenté de 30 à 40%, d'autres non, des idées suicidaires, par contre, multipliées par 2,5 à 14,74 fois, selon les synthèses, dépression, automutilation, pré-éclampsie chez les femmes enceintes, et ce n'est pas exhaustif. Alors de plus, ça augmente l'insuline, ces médicaments. Mais l'insuline est un promoteur de tumeurs. Une vaste étude qui a suivi pendant 10 ans près de 200 000 personnes, années, observe une augmentation associée à la prise des analogues de GLP-1 des risques de cancer chez 6,6% des femmes et 2,2% chez les hommes. Les élévations des cancers de la thyroïde sont les plus inquiétantes, 300% dans certaines études. Bon, je reconnais qu'il y a des études qui ne le retrouvent pas. D'autres promesses avancées, comme la réduction des maladies de Parkinson et d'Alzheimer, se sont avérées fausses. Bon, de toute façon, on a eu malheureusement des chercheurs sponsorisés qui ont sorti que l'analogue de GLP-1 vont tout résoudre. La semaine dernière encore, il y a une étude qui sort pour la réduction du cancer du sein. C'est juste pas possible. Bon. Ce sont les seniors qui ressentent plus vite le problème. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà, avec l'âge, perdu du muscle, en moyenne 1% par an. Et son retentissement, ils le ressentent au quotidien. Et donc, aux États-Unis, 65% des seniors ont arrêté les médicaments. Alors, vous avez vu ce qui se passe, nos amis Trump et RFK, vous voyez qui je veux dire, ils ont renversé la pyramide pour dire « Ah ben alors, d'accord, vous perdez du muscle, c'est pas grave, il faut... » augmenter, et il le propose pour tout le monde, les viandes, bon, on sait que les viandes sont inflammatoires et favorisent le surpoids. Les études sont formelles là-dessus. Donc c'est vraiment la tête à l'envers, quoi. Bon. Et puis c'est les intérêts économiques derrière tout ça. D'ailleurs, beaucoup d'internautes l'ont vu. J'ai vu récemment une vidéo sur YouTube d'un médecin charlatan là, qui loue l'arrivée de cette nouvelle pyramide alimentaire. Bah écoutez, j'ai passé 2 heures à répondre aux commentaires parce que c'est vraiment, ça vous prend la gorge, quoi. C'est pas possible, on peut pas laisser les gens se détruire comme ça. Donc, quant aux procédures judiciaires, pardon.
Ce qui fait grossir, c'est la viande rouge. On nous conseille de manger de la volaille, du poulet, en règle générale.
Bah, ça sert absolument à rien. C'est la viande la plus inflammatoire, c'est le poulet, et c'est celle qui fait le plus grossir.
D'accord.
En plus, le poulet n'a aucun intérêt nutritionnel, il n'y a pas de fer dedans. Donc, si vous voulez, le seul intérêt de la viande rouge, c'est le fer. Donc, le poulet, ça ne sert absolument à rien. C'est la viande la moins chère, alors évidemment la plus consommée. Et puis, c'est quasiment que des animaux malades et élevés en batterie, qui sont en fait des usines, on va dire, camps de concentration. Au Brésil, en Chine, il y en a 10 millions de poulets. Ils se targuent de tuer 1 million de poulets par jour. Bon, des résultats, on les a. Quant aux procédures judiciaires, en particulier pour cécité, donc on a vu tout à l'heure beaucoup de répercussions de ces médicaments sur l'œil, elles commencent à se multiplier par milliers aux États-Unis et pour les pancréatites en Angleterre. Donc, j'ai un peu développé cet exemple parce que là, il est monstrueux et puis il est en train de faire des ravages. Il y a des dizaines de millions de gens qui prennent ça. Le recadrage de l'influence des labos sur les prescriptions devrait aussi se faire au niveau du financement des revues et des visites médicales, maintenant, d'Internet. Car oui, les labos utilisent des influenceurs pour promouvoir leurs médicaments en court-circuitant les réglementations, créent même leurs propres réseaux sociaux pour, disent-ils, répondre directement aux questions des patients, évidemment, dans leur intérêt. Donc, mieux former les prescripteurs, mieux recadrer les pratiques commerciales des labos, mais encore mieux sortir du discours quant à la prévention, un mot dans la bouche des ministres de la Santé depuis des années, mais sans effet très marquant sur le terrain. Bon, certes, on a des équipes très courageuses en France, comme celle de Serge Herberg, patron du PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui lutte maintenant de manière nettement plus incisive contre les aliments ultra-transformés. Mais les politiciens, vous avez vu, ont rejeté l'obligation de l'étiquetage par le Nutri-Score. On préfère parler de dépistage. Mais dépistage, c'est déjà pour chercher des gens malades qui s'ignorent. La prévention, c'est comme tout le monde le sait, éviter d'être malade. Ça serait mieux. Or, nous savons faire. Nous disposons à ce jour de dizaines de milliers d'études qui prouvent et reprouvent que mieux manger, bouger quotidiennement, réduire son exposition aux polluants, mieux gérer son stress, optimiser son sommeil, réduire sa vulnérabilité aux addictions, effondre les risques d'infection, de troubles musculosquelettiques, de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies inflammatoires auto-immunes, de cécité, de surdité, de cancer, de maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Autrement dit, ce qu'on appelle les maladies dégénératives, tout ce qui augmente avec l'âge. Et ce n'est pas les micro-mentions qu'on voit en bas des publicités, là, mieux manger, mieux bouger, etc., qui vont améliorer les choses. La revue la plus ancienne et la plus respectée des revues médicales, la revue Lancet, l'a affichée haut et fort dans un numéro spécial centré sur les aliments ultra-transformés. Le profit ou la santé, quelle est la priorité? C'est clair. Les gens consomment ce qui est accessible. Or, que voit-on? Une filiale d'Air France, Transavia, qui vend en vol des cartouches de cigarettes moins chères. Alors d'un côté, on vous dit arrêtez de fumer, de l'autre côté, on vous obtient des clopes. Les gares qui alignent des distributeurs avec deux ou trois rangées d'eau, évidemment, en bouteille plastique, mais les dizaines d'autres rangées, c'est quoi? Des sodas, des chips, des barres ultra-transformées. Mmh. On peut admirer 6 de ces distributeurs bunkers là, en ligne, promoteurs de l'obésité dans les gares, par exemple, du Nord, de Lyon. Dans la même gare, deux boutiques de bonbons Haribo et au coin de la rue, le coin de la gare le plus stratégique, World of Candies, voilà. Le monde des bonbons. Les gares, c'est l'État, donc ça ne doit pas être si mauvais. Et puis on se retrouve exactement avec les mêmes distributeurs, mais où? Dans les facs de médecine, dans les hôpitaux. Ça tombait par terre. Donc en fait, c'est des distributeurs qui ils sous-traitent avec des distributeurs qui mettent ce qu'ils veulent. Ouais. Je pense que les administrateurs d'hôpitaux, de facs, de gares, d'avions, de trains, d'hôtels, devraient cadrer ce qu'il y a dans leur frigo, dans leur distributeur. Hein, ça a été fait dans les écoles. Bon, alors les écoles, c'est simple, ils ont interdit les distributeurs. Bien, mais pas dans le périmètre de l'école. Donc, quand les gosses sortent, qu'est-ce qu'ils font, évidemment? Ils vont acheter,
à boire, à manger, oui, sortie de cours,
Des merdes, quoi, du soda qui fait grossir. On sait même que le soda zéro calorie augmente le diabète, parce que ça bousille la flore. Donc voilà, les mesures ne sont pas à la hauteur des besoins. Et puis évidemment, il est moins aussi important d'apprendre à bien manger, gérer son bien-être et sa santé, éviter les addictions, dont celle des écrans. Hein, bon, là vous avez vu que les députés ont interdit les réseaux sociaux au moins de 15 ans, bon bravo. Mais sur le terrain, comment ils vont gérer ça? Je ne sais pas trop. Bon, gérer les pressions publicitaires et commerciales, ça serait très utile à la société et à l'économie, que d'apprendre à lire et à compter, évidemment indispensable. Mais les écoles primaires, avant l'adolescence, période critique et trop tardive, se doivent de renforcer les enfants par rapport à toutes les menaces qui s'accumulent de manière exponentielle sur leur santé physique et mentale. Vous avez vu les études, Omeline, pour ne parler que de la santé mentale, le pourcentage d'enfants et d'ados victimes de harcèlement sur les réseaux est de 37%.
Oui, c'est énorme.
La France connaît des hausses massives d'hospitalisation d'adolescentes et de femmes jeunes pour tentatives de suicide ou automutilation. Je cite, chez les très jeunes filles âgées de 10 à 14 ans, elles ont bondi de 22% en un an, entre 2023 et 2024. Chez les 15-19 ans, de 14%. Chez les hommes, majoritaires parmi les morts par suicide, les hospitalisations pour tentatives de suicide ont augmenté de 17% chez les 15-19 ans, de 8% chez les 20-24 ans, de 7% chez les 25-29 ans par rapport à 2023, de nouveau en un an. Au cours du mois de septembre 2024, les passages aux urgences pour gestes suicidaires chez les enfants de 11 à 17 ans ont nettement progressé, plus 70%.
C'est jeune, hein?
Oui. Vous savez, le professeur Cyrulnik, là, qui est spécialiste de la résilience, on leur a dû demander un rapport devant la multiplication des suicides chez les enfants. Mais je ne comprends pas bien ce qui se passe à la suite. Bon, les rapports, c'est bien, mais après, il faut agir. Qui est aujourd'hui assez stupide pour penser qu'une telle dégradation de notre société et notre monde, en particulier par la pollution, donc la malbouffe, la surproduction de produits nocifs pour la santé, l'environnement, le climat, la biodiversité, hein, ne va pas les affecter eux-mêmes, quelle que soit leur richesse et leur pouvoir. Donc, hein, on a vu qu'un petit coup d'astéroïde sur la tête, ça a transformé la Terre, puisque les dinosaures ont disparu, mais il est resté les oiseaux. Hein, pourquoi les dinosaures ne deviendraient pas des oiseaux? Ce serait quand même mieux. Bon, donc en fait, on a des outils majeurs. Je voudrais finir là-dessus quand même sur une note positive. C'est qu'on a des dizaines de milliers d'études aujourd'hui sur la nutrition, sur l'activité physique, sur le meilleur sommeil, sur la gestion du stress, sur la baisse de la pollution ou une meilleure détoxification. Tout ça se conjugue pour améliorer la santé et prévenir la quasi-totalité des pathologies. Et ça, ça donnerait un boost énorme à l'économie. Et bon, comme vous le savez, hein, les gens qui sont mal, ils diffusent du mal-être. Les gens qui sont bien, ils diffusent du bien-être. Hein. Quand vous voyez une personne qui vous croise, qui sourit, ça vous fait du bien, d'accord?
Bah oui.
Bon, donc les gens qui sont mal, ils deviennent violents. Vous avez vu partout les posts. J'ai vu récemment à l'opéra des affiches « Si vous insultez, vous menacez le personnel, vous allez être passible de poursuite à l'opéra. »
Mais c'est qu'on en soit à ce point de devoir mettre ce genre de message, que ce soit pas naturel.
Voilà, j'appelle la SNCF pour prendre un billet, ils disent, attention, vous n'êtes pas enregistré si vous ne le voulez pas, mais si jamais vous êtes incorrect avec le personnel, ça sera enregistré, et tout de suite, c'est maintenant partout. Mmh. Moi, je n'ai personnellement pas vu, si l'annexe de ma poste, il y a eu une agression, ils l'ont fermé pendant 2 semaines, et après ils ont mis un vigile, bon, quand même... C'est surprenant, mais où on va comme ça? Je veux dire, il y a une dégradation générale. Or, je veux dire, c'est vraiment indispensable de mieux former les médecins à tous ces problèmes. L'alimentation qui a une très petite place dans leur formation, la médecine environnementale, les polluants qui n'existent pas dans la formation, la communication avec les patients. On a dit dans les écoles primaires un programme d'éducation à la santé, au mieux-être, pas tomber dans les pièges publicitaires, avoir un œil plus critique, etc., etc. Bon, en Angleterre, vous avez vu qu'ils ont été plus radicaux. Ils ont supprimé, interdit la pub des aliments ultra transformés pour les enfants à la télé et sur Internet. Ils ont interdit le tabac aux gens qui sont moins de 15 ans, à vie, pour faire une génération sans tabac. Un adulte qui achèterait du tabac pour un jeune de cet âge-là, mais qui est né donc, il y a moins de 15 ans, il peut vraiment être sérieusement inquiété. Donc, je pense que voilà, on n'est pas à la hauteur des problèmes. Merci de vous positionner. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a une pétition contre Omnibus là, qui veut nous laisser des pesticides, même s'ils sont carcinogènes à vie. Donc, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a des ONG comme Génération Future qui se battent pour nous. Essayez de les soutenir comme vous pouvez. Vous-même, essayez de faire de meilleurs choix, parce que moins on achète de produits merdiques, moins ça va être fabriqué, parce que si ça ne se vend pas, évidemment. Et puis, il y a des moyens, si vous voulez vraiment motiver, regardez la nutrithérapie, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des tas de sites, pour nos amis médecins, professionnels de santé, il y a des formations sur ce sujet qui n'est pas développé en fac. Ça s'appelle CFNA, Centre de formation de thérapie appliquée, cfna.be, vous trouvez ça facilement.
Merci beaucoup.
Il y a 3 campus et on peut les suivre online. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Jean-Paul Curté.
J'espère que tout ça vous aidera à vous faire du bien et à vous conserver avec le sourire.
Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de Nutrithérapie.
J'espère, on y pense avec Fabrice, mais je ne suis pas encore... convaincu de la formule, il va falloir que j'y réfléchisse, on va ruminer un petit peu.
Affaire à suivre, alors. À bientôt Jean-Paul, bel été.
Bon été Ambline, bon été à tous.
Au revoir.
Et à toutes, au revoir.